Raphaël Romney, auteur de Les couleurs troubles de l'enfance, syndicaliste, secrétaire au comité de rédaction de la revue Fragment, co-animateur à l'émission et pourtant elle existe cette littérature sur Radio Libertaire, membre du CLOPS. Et aujourd'hui, postier retraité, nous exposera son point de vue sur l'inscription de Michel Ragon en mai 68 dans la lutte des classes. Son intervention, ben voilà, c'est Michel Ragon et mai 68.
Voilà, donc comme je suis la voiture balai, on va attaquer rapidement et essayer de rattraper le retard, puisque bon, on ne fera pas de débat non plus. Alors, Michel Ragon et mai 68. En mai 68, Michel Ragon est président du syndicat des critiques d'art, également commissaire général français à la Biennale de Venise, qui doit s'ouvrir le 22 juin. Alors, aborder le positionnement de Michel Ragon en 68, c'est en fait situer l'écrivain face au mouvement social, en l'occurrence ici la révolte de la jeunesse estudiantine et la grève générale illimitée des travailleurs. En clair, la question qui est posée à travers ça, c'est est-ce que l'auteur demeure, comme ça arrive relativement souvent, enfermé dans sa tour d'ivoire ou se sent-il concerné, impliqué par le mouvement social d'ampleur qui paralyse la société? Alors, avant de cerner l'attitude de Michel Ragon en ce joli mois de mai, j'ai pensé que c'était utile de resituer un petit peu, de fixer quelques jalons quant à l'engagement de Michel Ragon avant mai 68, et pas simplement de prendre des événements et voilà. Parce que l'attitude qu'on peut avoir sur une réalité sociale, etc., en tant qu'écrivain à un moment donné, ben, c'est aussi important de savoir d'où cette personne vient. Et pas simplement parce que des fois, ce qu'on peut lire de manière générale, il était inséré dans le mouvement libertaire depuis telle date. Alors qu'il demeurait à Nantes, il y a des choses qui ont déjà été évoquées ici ou là, hein. Il convient quand même de rappeler que Michel Ragon a entretenu une correspondance importante avec Henri Poulaille. Parce qu'on nous dit Henri Poulaille, il le rencontre à Paris quand il arrive en 1945, mais c'est le résultat d'un travail de correspondance important qu'il faisait déjà depuis de nombreux mois. Et ça, c'est le premier point. Donc, et à partir du moment où il va arriver en 1945, il va être orienté, je ne vais pas redévelopper ce qu'a dit Thierry, etc., être introduit dans les milieux libertaires comme prolongement des échanges qui avaient commencé. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, hein, et marteler même, c'est que le contexte politique de l'époque, il est caractérisé par l'hégémonie du PCF au sein du mouvement ouvrier. Ça, c'est un prestige qui repose en grande partie sur le rôle du PC dans la résistance. Et le sens du vent conduit de nombreux écrivains, de nombreux artistes à devenir les compagnons de route du PCF, et à devenir une véritable cohorte qui sont à peine troublées par l'écrasement de la commune de Budapest en 1956. Et déjà, ce positionnement, je crois que c'est Thierry Maricourt ce matin qui a évoqué les différents noms et refus de Michel Ragon à certains moments clés. Là, je crois qu'on a un moment aussi important. Et voilà comment il évoque ce rapport avec la possibilité de s'insérer dans le milieu à la mode, je dirais, de l'époque. On a voulu me présenter à Aragon et au Comité national des écrivains. Parenthèse, le Comité national des écrivains, c'est celui qui a procédé à l'épuration dans les milieux artistiques, etc., notamment avec une personne qui s'appelle Armand Robin, qu'on a évoqué et qui a été traduit, à qui ils ont cherché des poux dans la tête, notamment parce qu'il était anarchiste. Le contact a été, je reviens sur ce que dit Michel Ragon, le contact a été très mauvais. J'ai trouvé ce milieu bourgeois, mondain, et suis reparti épouvanté. Refuser de suivre la tendance majoritaire révèle incontestablement une réelle force de caractère. Donc, et ça vient de son assertion dans le milieu libertaire. On a évoqué, il faut le dire, en 52, Maurice Joyeux est un des artisans de la reconstruction de la Fédération anarchiste. Il gère une librairie dans le 18e qui s'appelle le Château des Brouillards. Et à l'époque, c'est fréquenté par Breton, Sandrars, Camus, Brévert, Brassens, Michel Simon. Pour les moins de... C'était un acteur, Michel Simon. Non, mais bon, c'est une parenthèse. Dans le deuxième tome de ses mémoires, Joyeux rapporte « Puis, un autre jour, un jeune écrivain pousse ma porte. Il s'appelait Michel Ragon. » En 1950, il participe aux mobilisations de protestation contre la saisie du roman d'Henri Miller, Sexus. Dès 1951, on l'a dit rapidement quelqu'un, il publie des articles dans la revue de Louis Lecoing, donc, qui sera à la base de la reconnaissance de l'objection de conscience. Et cette revue, c'est Défense de l'homme, et en particulier des portraits de figures libertaires. Et il semble que certains de ses écrits demeurent inédits, puisqu'il n'a pas été complet. Il y a la franchise, Si ma mémoire est bonne, et d'autres. Voilà. Donc, cette insertion. En 1959, ça c'est un peu une curiosité, mais bon, on va quand même l'évoquer, parce qu'elle est intéressante pour ce qu'il y a derrière. Aux éditions de la Table Ronde, dans une collection intitulée Meneur d'hommes, l'auteur des Mouchoirs Rouges de Cholet publie un ouvrage, moi je pense vraisemblablement sur commande, intitulé Karl Marx. Alors, on ne parle pas souvent, c'est un court opuscule de 121 pages qui appartient au genre pamphlétaire. Et ne saurait constituer, enfin, je l'ai bien lu, je crois, une analyse sérieuse de l'œuvre de Marx. Et je crois que la Table Ronde était plutôt une maison d'édition un peu à droite, on va dire, pour faire simple. Donc, c'est un portrait rapidement esquissé. Et en 20 pages, il bâcle la Première Internationale, en réduisant un peu les oppositions qui sont fondamentales au sein de la Première Internationale entre les autoritaires et les anti-autoritaires, avec Marx, Bakounine, James Guillon de l'autre côté. Ça, c'est un peu balayé au nom de questions d'ego, etc. Bon, il y a toujours des questions d'ego, machin, mais c'était, là, c'est un peu réduit. Et c'est pas pour ça qu'il est intéressant, ce livre. Il est intéressant parce qu'il revêt l'attrait de Michel Ragon pour Proudhon. C'est-à-dire qu'il en parle, et c'est une adhésion aux thèses proudhoniennes qui sera confortée ultérieurement dans un entretien qui est publié dans Le Monde Libertaire du 17 février 2004, au cours duquel il confirme une proximité idéologique avec Proudhon et avec les socialistes utopistes du 19e. Alors, je fais juste une parenthèse, il faudrait qu'on arrête de parler de socialistes utopistes, parce que c'est un terme péjoratif qui vient du courant marxiste et qui vient en particulier d'Engels, pour dire « nous on est arrivés, maintenant c'est sérieux, avant il y avait des farfelus utopistes ». Mais quand on voit que ces farfelus utopistes, c'était Robert Owen, c'était Saint-Simon, c'était Charles Fourier, et si on fait un bilan historique, c'est aussi tout ce courant-là qui a alimenté les réflexions et les pratiques sur le mouvement coopératif. La création du familistère de Gaudin à Guise en 1854, qui a été inspiré du phalanstère de Fourier et qui avait des pratiques tout à fait novatrices et progressistes à l'époque par rapport à l'éducation, par rapport par rapport à l'éducation des filles, sur la question de la piscine, des choses comme ça. Il y avait beaucoup de choses progressistes. Et le courant marxiste balaye un peu ce courant politique. Donc, importance pour Ragon de Proudhon. Il y a un autre argument pour lequel Ragon ne se sent pas vraiment en affinité avec Marx, c'est que la critique de Marx de Proudhon, un des autres points, hein, il y a misère de la philosophie, philosophie de la misère, mais un des points qu'il souligne, c'est Marx dit Proudhon, c'est un autodidacte. Alors ça ne va pas cadrer avec la démarche de Michel Ragon. Ça, on a là un élément secondaire, mais important. Je vais arriver à mes 68, hein, je vais aller vite. Un autre aspect du cheminement intellectuel libertaire de Ragon est illustré par un article qu'il a publié dans le numéro 68, daté de mars 1961. C'est Le Monde Libertaire des Lettres et des Arts. Et cet article est intitulé « Lecture pieuse ». Merci à Patrick Verdun de m'avoir... voilà. Merci Patrick. Et voilà donc le sujet. Il revient sur le contenu d'ouvrages religieux, son missing des petits communions, un bréviaire de poche, ou son petit catéchisme qu'il a retrouvé enfoui, je cite, dans un tiroir de la commode sous le cimetière des photos de famille. Après avoir commenté des extraits de ses livres, Michel Ragon conclut son article. L'enfer, vous dis-je, la terre n'est que l'enfer d'un autre monde. Ces lectures pieuses ne font que le confirmer. Ces prêtres, ce sont des diables noirs. C'est l'évidence même. Tant de duplicité, de rouerie, de petit commerce, tant de façons de détourner l'homme de son corps, de ses désirs, de ses aspirations, tant de manières d'abêtir, d'avilir, de modifier, de salir, de déchirer, sont autant d'électrodes posées par des ecclésiastiques obséquieux dans les baignoires de cet enfer hygiénique et rationnel. Enfer tout confort, eau chaude à tous les étages, eau, gaz, électricité, vide ordure, radio, télévision, grand hôtel de l'enfer, où l'on est servi par une domesticité en livrée ecclésiastique et militaire. Enfer et damnation. Michel Ragon, à ce moment-là, affirme, et nous sommes donc en 1961, son émancipation avec l'édifice doctrinal religieux. En 1967, important aussi à rappeler, il fait un séjour à La Havane, où il va rester quelques mois. Et c'est là qu'il va commencer l'ouvrage que nous avons réédité, « Nous sommes 17 sous une lune très petite », roman de politique fiction qui est vraiment très intéressant par rapport à tout ce qui est sur la lutte de la tricontinentale, c'est-à-dire que c'est un livre où on traverse l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, avec des rencontres avec les Black Panthers, tous les figures essentielles des luttes anticoloniales, Patrice Lumumba qui finira dans un bain d'acide, Sékou Touré et d'autres, c'est dans cet ouvrage qui a quand même été, je pense, suscité, il y a une reprise au départ du discours de Fidel Castro à La Havane, même si ultérieurement Michel Ragon, comme plein d'autres, prendra ses distances avec la dictature castriste. Le 9 décembre 67, on approche de 68, en qualité de président du syndicat français des critiques d'art, Michel Ragon écrit au président de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du RSS en faveur de l'écrivain dissident Yuli Markovitch Daniel, qui a été jugé en 1966 et incarcéré. Voilà. Alors, on arrive donc dans la mêlée sociale. À la veille du mouvement spontané de 68, il est donc possible d'appréhender le positionnement politique de Michel Ragon. Référence explicite à un anarchisme, combat pour les droits démocratiques d'expression, contre la censure, et toujours ceci avec un ancrage internationaliste. Ça aussi, c'est important à marteler. Parallèlement, sur le plan artistique, il est attiré par les artistes qui font œuvre créatrice en empruntant des chemins buissonniers en jachère, souvent éloignés des galeries qui ont alors pignon sur rue. Mais c'est au pied du mur que l'on voit le maçon, et c'est souvent à l'aune des crises, des bouleversements sociaux, des guerres parfois, que s'exprime ou non la force d'un engagement. Je rappellerai pour mémoire que la Commune de Paris a été un moment où on a vu un certain nombre de figures littéraires basculer massivement du camp de la réaction, y compris une autrice que j'aime beaucoup personnellement, George Sand. Mai 68 est une déflagration sociale qui impacte toute la société. Symbole de cet état, bon, les cinéastes, sous l'impulsion du couple Godard-Truffaut qui est encore uni à cette époque-là, sont vent debout et le festival de Cannes est annulé. La première expression de l'auteur de Georges et Louise a lieu le 20 mai 68. C'est une lettre ouverte adressée à André Malraux, alors ministre de la Culture. Dans ce texte, il exhorte à se désolidariser de la répression policière pratiquée à l'encontre des manifestants. Écoutons sa parole. Que le musée d'art moderne soit autogéré par les artistes, la cinémathèque par les cinéphiles, la Sorbonne par les étudiants, le palais du Festival de Cannes par les cinéastes, est d'une logique telle que l'on reste confondu que de telles initiatives désintéressées et idéalistes puissent être contestées. Mais ce que l'on comprend moins, c'est le silence d'André Malraux. Et je cite toujours, « Devons-nous en conclure que la culture que représente désormais André Malraux a besoin des CRS pour se défendre, qu'il s'agit d'une culture policée au sens le plus pas de loi du terme ?» Ce texte est adressé le 18 mai au journal de combat, paraîtra le 20, dont le directeur est alors Philippe Tesson, et il est signé de Michel Ragon en sa double qualité de président du syndicat des critiques d'art et de commissaire général. Je lis un peu trop, là, non ? Et du commissaire général français à la Biennale de Venise de 68. Le lendemain, 21 mai, est créé un comité de l'Union des écrivains que Michel Ragon rejoint, et ce jour même, c'est l'occupation du siège de la Société des gens de lettres. Mais le second fait d'armes important et significatif et qui a été salué au-delà des frontières a lieu le 7 juin 1968. C'est le jour où il démissionne de son poste de commissaire général français à la Biennale de Venise qui doit ouvrir le 22 juin. Dans une lettre publique, il motive son geste en revenant sur ses appels à Malraux et il regrette d'avoir demandé en vain que, je cite, « l'écrivain de l'espoir se désolidarise de la répression policière contre le mouvement étudiant ». Il constate que Malraux n'a répondu qu'en, je recite, « désavouant Jean-Louis Barrault qui avait accepté le dialogue avec les occupants étudiants et ouvriers de l'Odéon en approuvant le maintien de l'ordre des architectes dont nous demandions la suppression, nous solidarisant ainsi avec les étudiants des écoles d'art et les 700 architectes parisiens. » Au-delà de l'acte public qui connut un réel retentissement en Italie mais pas que, il semble utile de fournir quelques éléments quant au cheminement de ce positionnement. Parce que bon, on peut dire, bon, voilà, il a démissionné, très bien. En fait, ça, c'est le résultat de toute une réflexion collective. C'est aussi des choses qu'on retrouve chez Poulaille. Poulaille, on dit, il a dit ça ou ça, mais c'est souvent le résultat d'un travail avec des collaborateurs, avec des proches. Et en l'occurrence, là, le choix de Michel Ragon, c'est le résultat de sa réflexion avec les quatre artistes qu'il a sélectionnés pour Venise. Il s'agit d'Armand, qui est un peintre, un sculpteur, un plasticien, qui dans sa pratique utilise notamment comme matière les objets manufacturés. Il est connu pour ses accumulations, et bon, je pense que tous les Parisiens connaissent, et pensons à l'heure de tous, et à consigne de vie, c'est les deux œuvres qui sont visibles devant la gare Saint-Lazare, où il y a, voilà. Donc il travaille avec Armand. Jean de Waan, qui est un peintre, sculpteur, lithographe, qui sera plus tard reconnu comme le maître de l'abstraction constructive. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, je cite. Piotr Kowalski, qui est d'origine polonaise, est sculpteur, mathématicien, architecte, créateur de livres-objets. Ça renvoie au petit débat qu'on a eu ce matin, le rapport avec le... Il y avait un intérêt, puisqu'il travaille avec cet artiste, et des œuvres qui sont situées dans l'espace public, comme l'escalier de la Défense à Paris. Et enfin, Nicolas Schoeffer, qui est d'origine hongroise, et qui crée des sculptures en les animant avec les nouvelles technologies électroniques. Si j'ai bien résumé, hein, s'il y a des spécialistes, ne pas hésiter. Au sein du groupe, les débats vont être contradictoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement « je vais démissionner, basta ». Kowalski veut exposer hors du pavillon français. Schoeffer et De Waan souhaitent exposer. Armand plaide pour le refus. Et finalement, il y aura un consensus qui va se dégager pour rédiger un manifeste, à intégrer au catalogue de l'exposition et faire du pavillon un lieu de contestation, avec projection de films sur la répression en France, etc. Le 6 juin, Michel Ragon écrit, Patrix, c'est le père de notre conteur, je ne sais pas s'il est encore là, qui est parti, il lui écrit « Patrix m'exhorte à démissionner, à ne pas me sentir inconditionnellement solidaire des peintres. » Ragon expose alors que sa décision au groupe d'artistes qui approuve sa démarche, sachant qu'ils seront présents à la Biennale de Venise, où d'ailleurs Schoeffer recevra le premier grand prix de la sculpture. On pourrait discuter ce que les artistes devaient y aller, etc. Le 7 juin, il reçoit des étudiants italiens qui ont comme objectif d'occuper la Biennale et de tout détruire en cas d'intervention de la police. Ils sont très radicaux, ils sont hostiles à sa démission, mais il la maintiendra quand même. Si cette action est décisive, hein, lettre à Magro, démission de la Biennale de Venise, il convient de souligner que l'auteur, d'un si bel espoir, va se mobiliser pour faire libérer nombre d'artistes emprisonnés à la suite des manifs, notamment certaines qui ont lieu à Flins, où il y a d'ailleurs Jing Totin qui mourra, un jeune militant maoïste, ou éviter dans le cas d'étrangers, puisqu'il y a pas mal d'artistes étrangers, pour éviter leur expulsion du territoire. Ces actions sont conduites dans le cadre collectif du syndicat des critiques d'art. Ainsi, il y aura des interventions en faveur d'Hugo de Marco, qui est un artiste argentin, de Jean-Jacques Lebel, plasticien, écrivain suisse, traducteur de Borrow Gixberg, partie prenante du mouvement du 22 mars, de Noir et Rouge, la revue, puis de ICO, Information, Correspondance Ouvrière, qui seront des revues qui vont jouer un rôle important dans le mouvement de mai 68 et après. Rulio Lepard, qui est également argentin, et qui lui avait reçu le Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise en 66, qui est expulsé, lui. Et ce n'est qu'au terme d'une mobilisation de 5 mois qu'il pourra revenir en France. Autre exemple, Grégoire Muller, peintre, écrivain suisse, acteur de la contre-culture, sera lui emprisonné plusieurs jours. Sur ces questions relativement concrètes, on voit Michel Ragon va se démener, faire jouer des relations, faire intervenir des actions concrètes, et il va montrer que la solidarité, c'est une valeur ici mise en pratique. Avant de conclure, et de pouvoir prendre un verre, il est nécessaire de rappeler que le mouvement culturel de mai 68 émet une contestation radicale de l'œuvre d'art. Je n'ai pas développé là, parce que je savais que j'aurais pas le temps. Mais l'œuvre d'art est donc du critique d'art. 68, ça balaye tout, c'est une révolution culturelle. Donc on se pose le problème, c'est quoi une œuvre d'art? C'est quoi un critique d'art? Au nom de quoi une personne pourrait juger à la place d'autres, etc. Il y a tout un débat. Sur ce point, Michel Ragon s'exprimera, y compris dans les mois et les années qui suivront, apportant une réflexion sur la place de l'œuvre d'art devenue objet de mercantilisme. La revue La Rue, numéro 8. La revue La Rue, c'est une revue du groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste. En 68, publie dans numéro 8 un article de Michel Dragon, Art et contestation, dans lequel il dénoncera l'absurdité des lois du marché sur le plan de l'art, prophétisant, je cite, l'avenir de l'art. L'art aura un avenir si l'homme en a un. Il atteindra de hauts degrés de spiritualité si l'homme se détache du matérialisme et de l'utilitarisme comme finalité, pour se préoccuper de notions de liberté, de loisir et de spiritualité. Pour terminer ce tour d'horizon, je citerai la dédicace publiée, c'est un peu d'autopromotion, mais tant pis, mais parce que c'est aussi important, la dédicace qu'il fait à son ouvrage, Nous sommes 17, sous une lune très petite, parce qu'elle résume bien. Je dédie, c'est l'éditeur qui parle, Michel Dragon dédie son roman d'abord aux intellectuels, étudiants et intellectuels américains qui n'ont cessé de protester avec courage contre la guerre du Vietnam, puis aux étudiants, ouvriers, intellectuels français qui ont restitué en mai et juin 68 son plus beau visage idéaliste à la France. Enfin, aux étudiants, intellectuels, allemands, italiens, japonais, latino-américains, polonais, tchécoslovaques qui nous permettent de ne pas totalement désespéré de l'humanité. Et je crois qu'il n'a pas totalement désespéré, parce que c'est dans ces eaux-là, je crois qu'il a rencontré Françoise Dragon. Voilà. Voilà. Merci.